Radio G1 vous présente G1, sa fabuleuse histoire, une rubrique animée par Michel Issard Tissier. Épisode 9, 1870, le Génois dans la guerre.
Bonjour, auditeurs, auditrices de Radio G1. Pour cette 9e édition, entamons ensemble la présentation d'un événement moins connu que les événements de juin 40, en ce mois qui marque son 153e anniversaire, la guerre de 1870 dans le Génois. Les sources utilisées pour cette présentation viennent de mon regretté camarade Jean-Pierre Roth et de son frère François, maître de conférences d'histoire à l'université de Nancy, ainsi que des notes de Georges Loiseau. La guerre de 1870, déclarée entre deux États, la France de Napoléon III et le Royaume de Prusse de Guillaume Ier avec le chancelier Bismarck. Elle durera 6 mois, de juillet 1870 à février 1871. Cette guerre a particulièrement marqué le Génois. La capitulation de Mac Mahon à Sedan, l'encerclement de Paris et de Metz provoquèrent une mobilisation générale dans notre région dans le but de former une armée intitulée Armée de la Loire pour libérer Paris à partir du sud. Mais cet objectif fut brisé par la capitulation de Bazaine à Metz, laquelle libéra l'armée du prince Frédéric Charles qui vint couper toutes les tentatives de l'armée de la Loire. Cette armée était placée sous l'autorité du général Dorel, catholique légitimiste, ce qui veut dire royaliste, qui avait fait sa carrière en Algérie avec Sonis, Charette, Bourbaki et l'amiral Jauré Guibéry. Elle regroupe environ 110 000 hommes au sud de la Loire, en arc de cercle de Gien à Blois, alors qu'Orléans est sous occupation bavaroise. En quelques semaines, Dorel forge cet outil, équipe les unités, organise l'intendance, mais on se fait quelques illusions, d'autant plus que Gambetta, conseillé par Freycinet, fait preuve d'impatience à tester cette armée et prouver à Paris que la France est là pour lui venir en aide. Enfin, le 9 novembre 1870, l'armée de la Loire se met en mouvement. À gauche de Blois, Chanzy avance en direction de Pithiviers. À droite, le général de Palière franchit la Loire à Gien et, dans le but de libérer Orléans tenu par les Bavarois, longe la forêt d'Orléans pour organiser une tenaille. Le 10 novembre, les soldats de Chanzy accrochent les Prussiens et les Bavarois entre Pathé et Coulmiers. Les Bavarois se replient en bon ordre sur Pithiviers et Malesherbes sans être inquiétés, le général Dorel se refusant à les poursuivre. Sur l'aile droite, De Palière poursuit sa progression et pour éviter l'encerclement, les Bavarois évacuent Orléans, occupé depuis un mois. Gambetta crie l'espoir et, de ce fait, Dorel devient général en chef de l'armée de la Loire avec le 17e corps en formation près de Le Mans sous l'autorité du général de Sonis. Le succès de Coulmiers est connu à Paris où l'euphorie dure quelques jours. Mais la météo s'invite dans le désastre. Neige précoce, froidure et humidité aboutissent à ce que l'armée de la Loire est obligée de stopper son avancée vers Paris et prend ses campements en forêt d'Orléans. Mais le prince héritier, suite à la capitulation, reçoit l'ordre de détruire l'armée de la Loire. L'avant-garde de cette armée arrive à Montargis le 7 novembre 1870. En quelques jours, les troupes du prince héritier balais mobiles et francs-tireurs postés vers l'Adon, Dorel ordonne l'abandon d'Orléans et, manquant de poudre, laisse intacts les ponts d'Orléans, ce qui lui vaudra d'être accusé d'être responsable de la défaite et lui fera perdre son commandement. À l'est du département, les troupes de Bourbaki, protégées par la forêt d'Orléans et veillant sur le pont de Gien, attendent tout à la fois l'ennemi et les ordres. Le 7 décembre, la pression prussienne s'accentue, les Prussiens tiennent une bonne partie de la forêt d'Orléans, Bourbaki donne l'ordre de sortir de la forêt et de se replier sur la sud de la Loire par le pont de Gien. Ce furent donc 20 ou 30 000 hommes qui, dans le désordre le plus complet, refluent sur la route d'Orléans en direction de Gien, Mais mal informé sur la réelle force prussienne, l'arrière-garde est accrochée en haut de la côte de Paillard. Deux zouaves, Jasmin et Pradi, sont tués. Ils reposent d'ailleurs au cimetière de Nevoy. Bourbaki n'osera pas attaquer les forces prussiennes. Ceci fut reconnu comme une erreur. Alors qu'il gèle à moins 18 degrés, sur un sol enneigé, c'est le sauve-qui-peut sur notre vieux pont. Avant de quitter la ville, le commandement français décide de faire incendier les stocks qui avaient été constitués pour nourrir l'armée de la Loire, provoquant un gigantesque incendie sur notre gare toute neuve. Mais en apprenant que nos troupes franchissaient le pont en direction du sud, les Prussiens du 3e corps d'armée s'empressent d'occuper la ville. Il faut dire que le service des renseignements de l'époque était plus que précaire des deux côtés. Ainsi, Bourbaki ne mesura pas dans le combat de la côte de Paillard le 7 décembre la faiblesse de l'ennemi, alors qu'il avait à sa disposition le 73e mobile du Loiret et le 19e mobile du Cher. Et c'est ainsi que l'on vit les Prussiens effectuer une retraite sur Dampierre alors que les Français reculaient sur le pont. Le 8 décembre au matin, l'information circule que le pont va être détruit. En effet, à 9h, deux mines explosent le tablier et deux arches, puis une compagnie du génie finit le travail et les gravats s'écroulent sur une Loire qui charriait les glaçons. Mais toute l'armée ne se replie pas. Si vite, une unité de francs-tireurs se positionne en Berry avec l'objectif de défendre Gien depuis une tête de pont et la fusillade éclate en direction des Prussiens stationnés sur les quais. Instantanément, ces derniers ripostent au canon depuis les ruelles perpendiculaires au quai et sont accompagnés par des tireurs positionnés sur et autour des platanes. Le général prussien, commandant de la place, fit prévenir le maire, M. Sarrat, que si le feu ne cessait pas, il n'hésiterait pas à commander le bombardement de la ville. Pour éviter cette tragédie, le maire convoque le conseil et il fut décidé qu'une délégation se présenterait sur le pont afin de parlementer avec les francs-tireurs pour faire cesser les combats. Drapeau blanc en tête, le maire, son adjoint M. Le Jardinier et M. Guérin, le directeur de la faïencerie, avançaient sur le pont sous la fusillade et parvenaient au point de contact souhaité, mais une balle atteint M. Le Jardinier à la cuisse, lequel s'écroula. Il fut ramassé par ses collègues, placé sur un matelas et conduit à son domicile. Il fut cependant présenté dans cet état au général ennemi, qui promit qu'en raison de la bonne volonté du conseil municipal, il épargnerait la ville. En raison de la faiblesse de son état, M. Le Jardinier décédera le 28 décembre, atteint par l'épidémie de variole. Gien, qui n'avait pas connu la guerre depuis les guerres de religion et la Fronde, avec cependant une brève incursion de Cosaques en 1814, voit l'armée du prince Charles pénétrer dans Gien et c'est le début d'une occupation brève mais très dure qui finira en mars 1871. Après avoir pris Gien le 8 décembre, le commandement prussien, ignorant les intentions du général Bourbaki replié à Bourges, est cependant perplexe. En effet, n'ayant pas eu les moyens d'arrêter la liaison ferroviaire Nevers-Montargis, il ne connaissait rien des moyens concentrés dans la Nièvre et le Cher par Bourbaki. Les premiers soldats prussiens arrivent à 10 heures. S'installant pour l'occupation, ils réquisitionnent 10 habitants de la ville, messieurs Houzet Breton, Joseph Rigaud, Isidore Rigaud, Auger Vigné, Vitalis, Jaquette, Minon, Bertrand et Derouet, qu'ils placent en bouclier humain face aux francs-tireurs. Le 10 décembre, le sous-préfet de Gien, M. Depont, proteste avec énergie sur ce fait auprès des autorités d'occupation. Il renouvellera cette semonce dans un second courrier le 15 décembre. Le 28 décembre, il reçoit l'ordre du général de Ranzo de faire retirer sous peine de représailles toutes les barricades sur les routes afin de rétablir la circulation Gien-Dampierre et Gien-Briard. Monsieur Depont, fonctionnaire courageux s'il en est, répond qu'il ne reçoit d'ordre que du gouvernement français. Il est immédiatement arrêté conduit à Orléans pour refus d'exécution d'un ordre reçu. Il se rend interné en Prusse, dans la forteresse de Weichselmunde, jusqu'à la fin de la guerre. Le prince Frédéric Charles reste cependant très inquiet, n'arrivant pas à connaître les intentions de Bourbaki, et ses intentions sont confirmées par une note du 14 décembre comme quoi l'armée de la Loire se reconstituait depuis Bourges. Le 15 décembre, le général von der Stahl annonçait avoir été attaqué par une troupe venant de Briard et nettement supérieure à la sienne. Cependant, hélas, la vérité était tout autre, et l'armée de Bourbaki, en route pour Gien, stoppa à Vierzon, son chef télégraphiant à Gambetta que l'état des troupes ne permettait pas d'aller au-delà. Mais la situation des deux camps était telle, tous les regards se portant sur Gien, les Prussiens étaient anxieux, les Français très optimistes. Mais bon, en fait, les Prussiens craignaient une offensive venue de Gien, les Giennois attendaient avec fébrilité une offensive des Bavarois venus d'Orléans. Une espèce de liesse accompagna des troupes de Bourbaki, arrivées par Nevers et Briard en chemin de fer, et l'on organisa des moyens de défense. L'ordre fut donné d'abattre des peupliers des quais pour faire des barricades, des volontaires furent requis pour creuser des tranchées coupant la route de Dampierre, mais vers 16h, on stoppa tous ces travaux, et les troupes de Bourbaki furent renvoyées vers Briard. En fait, tout ceci fut déclenché par une rumeur, celle propagée par un jeune homme qui affirmait avoir vu 12 canons et des milliers d'hommes à Ouzoir-sur-Loire qui se dirigeaient vers Gien. Il finit par avouer avoir menti. Commence alors pour les Giennois une terrible occupation. Certes, beaucoup moins longue que celle de 1940, mais non moins horrible. Le soir du 8 décembre, le maire, M. Sarrat, informe le conseil municipal qu'il a reçu une réquisition présentée par l'aide de camp du général prussien commandant la place. Elle est très précise et annonce que la ville de Gien, sous peine de payer une contribution de 10 000 francs, devra pourvoir dès ce jour et les jours suivants aux frais des déjeuners et dîners avec vin de Bordeaux, champagne, café, liqueur pour le général et son état-major de 12 personnes. L'occupation commence. Dès lors, les exigences de l'armée d'occupation vont se faire de plus en plus pressantes. Le 16 décembre, le maire reçoit l'ordre de faire réparer immédiatement et sans aucun délai les routes endommagées par la guerre dans la ville de Gien. Les cantonniers vont faire les réparations demandées. On embauche des ouvriers. Le conseil vote un emprunt de 25 000 francs sous forme de souscription obligatoire et consenti par les citoyens qui seront remboursés ultérieurement au moyen d'un emprunt fait par la commune. Le 29 décembre, l'armée d'occupation réquisitionne pour les besoins de ses soldats 150 kg de pain par jour, une vache tous les deux jours, et la paille, foin et avoine nécessaires à ses 12 chevaux. Plusieurs conseillers demandent à rouvrir la faïencerie aux ouvriers, ce qui est refusé en accord avec le directeur, M. Geoffroy, en raison du manque de matières premières, de combustible et de communication. Comme si un malheur ne suffisait pas à notre ville, une épidémie de variole se déclare. Outre M. le jardinier, M. Guérin, qui avait ouvert à la faïencerie un lieu d'accueil, et y visitait chaque jour les contaminés, fut atteint à son tour et en mourra également. Lorsque quelqu'un est atteint, il se signale par une feuille de papier marquée variole sur la porte de sa maison, ce qui avait au moins l'avantage d'empêcher les Prussiens d'y entrer. Bien évidemment, vu qu'à Gien, on n'est pas forcément plus niais qu'ailleurs, ceci servait parfois de subterfuge pour éviter de recevoir les occupants. Mais c'était grandement puni. Ainsi, dans la maison d'un vigneron du champ, les Prussiens forcent la porte, descendent à la cave, prennent toutes les bonnes bouteilles, notamment celles d'eau-de-vie, ouvrent toutes les cannelles, percent les fûts, lui faisant perdre toute la récolte. Le 1er janvier, il est décidé que sans délai, les boutiques et cafés doivent se limiter à être ouverts de 9h à 18h. Le 26 janvier, le général Ranzan publie un décret du ministre de la guerre qui ordonne une nouvelle contribution. Le 29 janvier, un télégramme annonce un armistice de 21 jours, mais l'armistice uniquement pour permettre l'occupation de la ville par un très fort détachement prussien. Le 7 février, les Prussiens se plaignent des difficultés de ravitaillement en viande. Le conseil est amené à décider d'une convention avec M. Derouet, qui était le boucher, pour fourniture de viande à seulement 1,25 francs le kilo. Bien sûr, comme toute période d'occupation, celle-ci eut son lot de bonnes et détestables attitudes, de dénonciations, d'horreurs, comme celle de ce jeune élève des Barnabites, en uniforme, confondu avec un soldat, avec les conséquences que ceci entraîne. C'est le 12 mars 1871 que le dernier soldat prussien quitte notre ville, ne sachant pas que ses compatriotes y reviendraient 69 ans plus tard, pour une durée beaucoup plus longue, dans une ville qui, pour notre malheur, cette fois ne fut pas épargnée.
Cet épisode est à retrouver samedi à 11h sur Radio Gien et ainsi disponible sur la plateforme streaming Spotify et sur la chaîne YouTube de Radio Gien.